La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Croyez-vous que Jésus reviendra? Répondant à ses disciples concernant son retour, Jésus déclara en Matthieu, chapitre 24, verset 29. Je vous invite à vous rendre avec moi en Matthieu, chapitre 24, verset 29. Et lisons le verset 29 et le verset 30 plus précisément. Matthieu, chapitre 24, verset 29 et 30. Matthieu, chapitre 24. Versets 29 et 30, où nous lisons « Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » Pensez-vous que cet événement ne nécessite aucune préparation, chers frères et sœurs? Écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul déclara en 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 4. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il déclaré cela? Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il déclaré cela? Eh bien, voyez-vous, la réponse se trouve au verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Mes amis, est-ce que nous aspirons à être dans la lumière afin que ce jour ne nous surprenne comme un voleur? D'après le verset 1 du chapitre 1, le livre de l'Apocalypse a pour objectif de révéler Jésus-Christ. Et de manière intéressante, le chapitre 14 de ce livre nous apporte une autre description de son retour. En effet, je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 14, et considérons le verset 14. Apocalypse, chapitre 14, et considérons le verset 14. Apocalypse, chapitre 14, verset 14. Et là, nous lisons que « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. » La première fois que Jésus vint sur cette terre, Jean-Baptiste devait lui préparer la voie. D'après ce que nous lisons en Matthieu 3, versets 1 à 3, et Malachie chapitre 3, verset 1. Et mes amis, pensez-vous qu'il en sera autrement lorsque Jésus reviendra une seconde fois? Il faut une préparation. Il faut une préparation, mes amis. Bien évidemment, il faut une préparation. Car voyez-vous, le verset 6 à 12 du 14e chapitre de l'Apocalypse nous indique qu'un triple message doit être entendu avant la seconde venue de Jésus. Et ce message se lit comme suit. Je vous invite à le lire avec moi en Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12. Et là, il nous est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Mes amis, si vous souhaitez toujours vous préparer pour le retour de Jésus, une bonne compréhension de ces avertissements est nécessaire. Et dans cette première étude, qui sera divisée en deux parties, la première partie sera ce soir, elle sera courte, et la deuxième partie sera, nous la verrons demain, elle sera un peu plus longue. Nous allons considérer, en tout cas en ce soir, une prophétie qui nous permettra d'établir le temps de ce triple message, ou qui nous permettra de commencer à établir le temps de ce triple message. Et pour cela, veuillez tout d'abord noter que le troisième ange, dont qui nous est introduit au verset 9, présente au monde la condition pour rencontrer Dieu en paix. Et cette condition, mes amis, voyez-vous, est l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus, n'est-ce pas? Et je vous invite à garder cela à l'esprit, car il s'agit d'un point clé pour comprendre quand est-ce que cet ange commence à donner son message. Gardez bien cela à l'esprit. La condition pour rencontrer Dieu en paix est l'observation, le fait de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Gardez bien cela en tête, mes amis. De plus, cet ange ne donne pas son message avant les deux anges précédents, mais il les suit, d'après ce que nous lisons au verset 9. Il les suit. Et il en est de même pour l'ange qui vient avant le troisième, c'est-à-dire le deuxième ou le second. Il ne donne pas son message avant, il ne donne pas son message avec celui qui le précède, c'est-à-dire le premier, mais il le suit. Ok? Donc, le premier arrive, il donne son message, il passe dans le, à la vision, on le voit, il donne son message, et ensuite le second arrive, il le suit, et le troisième le suit, en fait. Il ne donne pas leur message dans la vision qui nous est présentée, en tout cas. Ce n'est pas simultanément, en fait. C'est ils se suivent, en fait. OK? Et lorsque nous arrivons au premier ange, eh bien, nous devons également dire que c'est seul qu'il délivre son message, d'après ce que nous lisons dans la vision, mes amis. Et je précise cela, car, voyez-vous, lorsqu'il parle du premier ange, Jean déclare « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel » au verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et quand il dit « je vis un autre ange », il fait allusion au premier ange. Mais, mes amis, cela implique qu'il vit avant cet ange-là, qu'il en avait vu un autre. Parce que si il dit « je vis un autre », ça veut dire cela implique qu'il y en avait un avant lui. Ah! Donc cela implique qu'il a vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Un autre ange qui volait de la même manière. Ok? C'est-à-dire au milieu du ciel. Et cet autre ange se trouve en Apocalypse chapitre 8 verset 13. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse chapitre 8 verset 13. Apocalypse chapitre 8 et au verset 13. Et là, nous lisons, puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant, non, alors certaines versions disent on aigle, ok, mais ça, c'est des versions qui ne sont pas basées sur le Textus Receptus. Ça, c'est une Louis II ou une Semeur que tu as. Mais les Martin, les Osterwald, les King James, c'est bien ange, ok, voilà, ok, alors. Voilà, ma sœur, il faut venir avec ta Osterwald dorénavant. Je te l'avais recommandé en plus. Une Bible Textus Receptus. Pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Osterwald Martin. C'est les Textus Receptus. Ok? Mais je poursuis. Alors, écoutez bien. Donc, puis je vis et j'entendis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Voilà, mes amis. L'ange. L'ange auquel Jean se réfère en disant dans Apocalypse chapitre 14 verset 6, je vis un autre ange. C'est celui-là en fait. C'est lui qui venait avant en fait. Apocalypse 8 verset 13. Voilà. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel disant à haute voix, malheur une fois, malheur deux fois, malheur trois fois. Donc il y a trois malheurs. Et il dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. Mes amis, c'est à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner que cet ange annonce aux habitants de la terre trois malheurs. Et ainsi, ces trois malheurs sont reliés au son des trois dernières trompettes. Et voyez-vous, la cinquième trompette ou le premier malheur qui commence en Apocalypse, chapitre 9, verset 1. Et nous pouvons lire le verset. Et le cinquième ange sonna de la trompette. Ok? Et ça, c'est le premier malheur. Parce que juste avant, on annonce les trois malheurs. Donc, la trompette qui sonne, c'est le premier malheur. Ok? Eh bien, la cinquième trompette ou le premier malheur se réfère à la montée et à la propagation de l'islam. Et PA, Pastor Alan Stump, va nous mettre le slide. First slide, please. Et sur ce point, mes amis. Non, the first quotation. Okay, that one. Et sur ce point, Albert Barnes déclara, il est surprenant de voir que les commentateurs sont unanimement d'accord sur le fait que cela se réfère à l'empire des Sarrasins ou à la montée et à la progression de la religion et de l'empire de Mahomet. Je fais une pause ici. PA, this is the same slide that I presented in the United States, so you can have them and share them with Sister Hira. Okay?
Yes, I have.
Okay, so, voilà, je reprends en français. Voilà, mes amis. Et, next slide, too. Et c'est le 27e jour du mois de juillet de l'année 1299 de l'ère chrétienne que Othman Ier envahit le territoire de Nicomédie d'après Édouard Gibbon au chapitre 6 et la partie 13. Mes amis, la Bible nous dit qu'il devait torturer les hommes qui n'ont pas. Et je vous invite à suivre avec moi au verset 4, au verset 5 et au verset 10 d'Apocalypse 9, qu'il devait torturer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et ce, pendant une durée de combien de temps? une durée de 5 mois. C'est ce qui est marqué dans vos Bibles? Est-ce que c'est ce qui est marqué dans vos Bibles? Verset 4, verset 5, verset 10. Lisons cela. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 5. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Et verset 10. Elle avait des queues semblables à celles des scorpions et à leur queue un aiguillon. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ok? Donc, on voit que les mahométans, ou si vous préférez l'islam, dirigé par Mahomet, eh bien, Dieu annonçait qu'il devait torturer les hommes pendant 5 mois. Dans la Bible, mes amis, next slide, please. Dans la Bible, un mois se compose de 30 jours. Donc, 5 mois sont combien? Sont 150 jours. Et voyez-vous, Nombre, chapitre 14, verset 34, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, sont deux textes clés dont nous avons, qu'il nous faut pour bien comprendre ou bien interpréter le temps dans la prophétie biblique. Et d'après la règle de ces deux textes-là, eh bien, c'est-à-dire règle qui est que un jour prophétique équivaut à une année littérale, next slide, ces 150 jours sont 150 années qui amènent la fin du premier malheur au 27 juillet 1449. Puis vient le son de la sixième trompette ou du second malheur. En quel verset? Apocalypse, chapitre 9, versets 12 et 13. Ah, Apocalypse 9, 12 et 13. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux autres malheurs après celui-là. Et le sixième ange sonne de la trompette. Et j'entendis une voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc, juste après, dès que le premier malheur se termine, mes amis, le second malheur commence juste après. Et ce second malheur, sa durée doit être d'une heure, un jour, un mois et une année. Une heure, il nous est dit dans les versets que nous avons, ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Au verset 15. Excusez-moi, je vous ai pas donné le verset. Au verset 15. Et aussitôt furent déliés les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ok? Et mes amis, rappelez-vous que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Et qui est un livre, quoi? Prophétique. N'est-ce pas? Donc, next slide, please. Et rappelez-vous que dans la... No, previous one. Yeah. Previous one. You showed. Okay. Et that's one. Yeah. Thank you. Donc, rappelez-vous que dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à quoi? Une année littérale. Amen. Donc, une heure prophétique équivaut à 15 jours littéraux. Un jour prophétique équivaut à une année littérale. Un mois prophétique équivaut à 30 années littérales. Et une année prophétique équivaut à 360 années littérales, n'est-ce pas? Donc, combien de temps avons-nous ici? Nous avons 391 années et 15 jours littéraux. Et voyez-vous, mes amis, par conséquent, et après le calcul, cela amène la fin du second malheur au 11 août 1840. Ok? Et concernant cette date, next slide, concernant cette date, nous lisons que le 11 août 1840, le sultan aurait volontairement abandonné son indépendance entre les mains des puissances chrétiennes, tout comme 391 ans et 15 jours plus tôt, il l'avait reçu des mains de l'empereur chrétien Constantin XIII, d'après ce que nous dit Huria Smith. Dans Daniel and Revelation, dans la version de 1909. Et ces puissances chrétiennes, pour votre instruction, sont l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Et voilà, mes amis, nous sommes à la fin du second malheur. Et rappelons-nous que l'ange d'Apocalypse, chapitre 8, verset 13, déclara qu'il devait y avoir trois malheurs, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Lesquels devaient être connectés au son de la cinquième, sixième et septième trompette. Par conséquent, le son de la septième trompette, mentionné en Apocalypse, chapitre 11, verset 15, est l'annonce du troisième malheur. Oui. Et de plus, notez que le troisième malheur ne vient pas juste après la fin du second malheur. Tout comme le second malheur venait juste après la fin du premier malheur. Non, 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 non. Mais que, au verset 14, et suivez avec moi, du chapitre, au chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit là? Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Rappelez-vous, mais, et ce n'est pas la même chose. Quand le premier malheur s'est terminé, le second malheur a commencé juste après. Ok? Mais là, ce n'est pas pareil. Là, on nous dit qu'il va commencer bientôt. Donc, il y a un laps de temps qui va s'écouler entre la fin du second et le début du troisième malheur. Ok? Donc, ainsi, le son de la septième trompette devait commencer peu de temps après le 11 août 1840. Et voyez-vous, concernant cette trompette, nous lisons en Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Retournons en arrière dans Apocalypse, chapitre 10, verset 7, où il nous est dit, « Mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » Notez qu'il n'est pas écrit « au jour » singulier, mais « au jour » pluriel. Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Il est écrit au jour. Est-ce que dans vos versions, vous avez le jour au pluriel?
Oui.
D'accord. C'est très important. C'est pluriel. D'accord? Ce qui implique que le son de la septième trompette, mes amis, doit durer plusieurs années. Ok? Et voyez-vous, bien que le livre de l'Apocalypse ne nous donne pas d'instructions concernant la date exacte de la fin du troisième malheur, il déclare que le mystère de Dieu doit s'accomplir lorsque le septième ange sonnera de la trompette. Et voyez-vous, en Apocalypse, chapitre 16, versets 25 et 26, gardez un post-it, nous allons terminer avec Romain. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Romain, c'est cela? C'est dans Romain, excusez-moi, j'ai dit autre chose, c'est Romain chapitre 16, versets 25 et 26. Nous allons terminer avec ce texte-là. Romain, chapitre 16, versets 25 et 26. Romain chapitre, versets 25 et 26 de Romain 16. Romain chapitre 16, versets 25 et 26. Et écoutons ce que l'apôtre Paul dit ici. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché depuis la fondation du monde, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Avec ces deux versets-là, qu'est-ce que nous comprenons, mes amis? Nous comprenons que le mystère de Dieu est l'évangile qui fut caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté. Voilà ce qu'est le mystère de Dieu dont Apocalypse, chapitre 10, verset 7, nous parle. Et le mystère de Dieu qui s'accomplirait bientôt, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Ainsi, mes amis, lorsque le septième ange commencera à sonner de la trompette, c'est-à-dire durant les premières années du son de la trompette du septième ange. Le mystère de Dieu, ou si vous préférez, ou dit autrement, le temps de probation, mes amis, sera accompli. Et cela a commencé quand, mes amis? Nous allons voir ça demain, mes amis. Donc, gardons cela à l'esprit. Gardons ce que nous avons vu à l'esprit, car demain, nous y reviendrons. Mais voilà déjà une base, mes amis. Voilà déjà une base. Peu de temps après le 11 août 1840, le troisième malheur doit commencer, mes amis. Et lorsque le troisième malheur commence, durant les premières années, le temps de probation se termine, mes amis. Est-ce que vous croyez que Jésus est à la porte, mes amis?
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.